Ce film ne faisait pas partie des films de requins qu'on attendait cette année, et maintenant, on sait pourquoi.
Tu aimes les films d'horreur?
Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer?
Regarde ce que tu m'as fait.
Red Rum! Red Rum!
Attention, ils viennent te chercher, Barbara.
Déguster son foie avec des fèves au beurre.
Regardez-moi ça, ils ont jamais vu de sang ou quoi? On dirait du ketchup, ça craint.
Salut à tous, Yann, encore une fois au micro de ce nouvel épisode de Souviens-toi du film dernier. Voilà, au grand plaisir de reprendre ce micro, de refaire une petite critique, mais exceptionnellement, cette fois-ci, on va faire une critique, hein, un petit peu acerbe, parce que pour une fois, ben, on n'a pas été vraiment emballé par le film qu'on a vu.
Exactement, et puis en même temps, ça va nous permettre de parler aussi d'autres choses, hein. Ne vous inquiétez pas, on va pas seulement critiquer ce film, hein. Comme toujours, on a des autres petites pistes et des idées de films que vous pourrez regarder par la suite.
Oui, parce que c'est ça, en fait, ce qui est incroyable avec ce film, disons, pourquoi on l'a regardé, puisque c'est Tony Vircola plus Netflix, on s'est quand même dit, tu viens de me dire, finalement, c'est Tommy, pardon, excuse-moi, Tommy Vircola, Tony, c'est voilà, le double maléfique du petit dans Shining. Oui, voilà, donc Tommy Vircola, quand même, qui a fait des films que j'ai plutôt bien appréciés. Je me souviens plus très bien de Dead Snow, mais je me souviens d'avoir quand même passé un bon moment, un peu complètement délirant, on va dire, une version un peu zombie nazi de Evil Dead, hein, plus ou moins. Bon, je sais que c'est pas pareil que Evil Dead, mais voilà, en termes d'humour, il y a quand même ça, quoi.
Oui, exactement. Moi, c'est pareil. Je l'ai vu il y a aussi très longtemps, mais on en reviendra plus tard. Avant de parler de la filmographie et du travail de Tommy Vircola, on va plutôt parler du film. Donc le film, comment il s'appelle encore en français? Parce que nous, on l'avait vu, c'était le titre anglais, c'est Nature prédatrice en français.
Ah, c'est pas trash, vous l'avez pas en mode trash sur votre Netflix chez vous, en fait, en France?
Non, j'ai vérifié, même sur Wikipédia, c'est Nature prédatrice. Okay. Ou Allociné, peu importe le site où tu vas.
Oui, parce que à la limite, Nature prédatrice, ça passe encore, bien que c'est un petit peu vague, mais Thrash, c'est complètement de la fausse pub. Enfin, on se moque de nous, hein, parce qu'à la base, Thrash, ça veut dire un truc du genre se débattre violemment, s'agiter, enfin bref, ça renvoie un peu à l'idée que le requin fait muse avec sa proie et le balance dans tous les sens. Ben là, du coup, c'est même pas le cas. On s'ennuie même pendant les attaques.
Oui, qui secoue et qui la déchiquette, hein, surtout. Moi, j'ai vu aucun personnage se faire déchiqueter. Ils sont souvent engloutis, ils les tirent vers le fond, quoi.
Il y a beaucoup d'actions hors champ.
C'est vrai. Et peu de caméras sous l'eau. D'après mes souvenirs, il n'y en avait qu'une à un moment quand l'un des ados qui vit avec ses parents adoptifs, sa famille d'accueil, il va dans la cave pour aller chercher une arme ou... Non, c'était de la dynamite. Et du coup, il plonge parce que la cave, elle est submergée. Et là, on a droit à une petite scène qui est assez courte. Mais c'est, je crois, la seule, en fait.
Et c'est encore cette scène où le personnage est sous l'eau et reste accroché à quelque chose. Enfin, son vêtement reste accroché. Et encore une fois, ce personnage qui, plutôt que se débarrasser de ce fringue ou essayer de comprendre est-ce qu'on peut moyen de décrocher, quoi, continuer à tirer bêtement. Alors, c'est peut-être un instinct de survie logique. On perd un peu le sens de la logique et puis on continue à tirer.
Tu vois, c'est là que je comprends mieux l'exercice qu'on nous a fait faire pendant le baptême de plongée. Tu sais, quand tu dois cracher le... Comment ça s'appelle encore le truc que tu mets dans la bouche?
Ouais.
J'ai oublié le nom.
Le détendeur, je crois, je ne sais plus.
Le détendeur?
Non. Plus. Bref, comme ça, je mentionne.
Ouais, je ne sais plus le nom. Enfin, on avait l'exercice, on devait l'enlever et le jeter à côté de nous et sans regarder, le reprendre parce qu'il peut tomber à tout moment. Quand tu es plusieurs mètres sous l'eau, tu ne dois pas paniquer et pouvoir le récupérer. Normalement, de toute façon, tu en as deux. Il suffit vraiment de longer le corps et tu trouves le cap, quoi. Ben, ça, c'est pareil, en fait. Quand tu restes accroché... t'es censé pas paniquer, mais bon, c'est une situation inédite, donc je pense
c'est
que
un adolescent,
tu paniques.
Et puis d'après ce que j'ai compris, c'est un adolescent qui a quand même vécu des choses pas bien dans son passé, parce que c'est il vit avec une famille adoptive, d'ailleurs, ses trois frères et sœurs, enfin une sœur et deux frères. Et à ce propos, ben, la famille adoptive, ouais, c'était presque une bonne idée. Mais finalement, en fait, c'était un peu trop conceptuel par rapport à ce qui a été fait finalement, puisqu'on n'a pas vraiment de développement plus que ça de personnages. On connaît pas vraiment la nature des relations. C'est juste que, ben, visiblement, c'est un con en fait, leur beau-père. Limite, ça aurait pu être juste la mère et le beau-père divorcé. C'était la même chose, quoi, en fait.
Oui, c'était clairement la famille d'accueil qui accueille des enfants pour avoir de l'argent, en fait. Oui, c'était vraiment un détail. Finalement, qui n'a aucune importance, en fait, bah, ça n'a pas été développé du tout. Il y a juste les enfants qui sont contents quand leur beau-père connard, il se fait bouffer par le requin, quoi. Et c'est pareil pour les autres personnages. Il y a vraiment un manque de développement, je trouve. Du coup, on s'en fiche qu'ils se font tuer, mais ça, c'est pas grave en soi. Là, ce qui fonctionne surtout pas, c'est que on a ni l'un ni l'autre. Il y a pas le côté fun du requin qui attaque comme je sais pas, comme certaines scènes dans Sharknado qui sont complètement absurdes et drôles. Du coup, on n'a pas droit à ça. Ça reste quand même sur le côté un peu drame plus, mais sauf que il y a aucun drame en fait. On regarde ce film. Enfin, moi, je l'ai regardé et ça m'a laissé rien. Ni chaud ni froid, en fait. C'était vraiment le film de requin, je crois, le plus mauvais, parce qu'il m'a même pas fait rire, rien, en fait. J'ai même pas rigolé, quoi.
Il y a quelques petites scènes d'absurdité, mais c'est plus en termes de réaction des personnages. Mais pourquoi vous agissez comme ça Mais en fait, tout est prétexte à ce que les personnages deviennent une proie. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc. Est-ce que ce serait pas un film féministe ou un film qui rend hommage à la, enfin, qui met à l'honneur les femmes, et c'est pas plus mal, évidemment. Mais parce que toutes les victimes sont des hommes déjà, des hommes qui ne servent en plus à rien en fait dans le scénario. C'est ça. Et en plus, du coup, on a cette héroïne qui est coincée dans le véhicule. Et alors, un truc complètement absurde, théoriquement, elle serait morte parce que pourquoi, comme par hasard, l'eau continue à monter, mais elle s'arrête pile au niveau de sa tête, tu vois, elle n'est pas complètement submergée. Et puis l'autre, là, qui est censé la sauver, mais qui a des problèmes de claustrophobie, là pareil, on a vite fait un flashback, mais on s'est. Oui, agoraphobe. Oui, mais on a vite fait un flashback, mais on ne sait pas vraiment, voilà, on n'en sait pas en plus, quoi. Enfin, bref, l'agoraphobie n'est pas totalement justifiée et qui met du temps, du coup, à la sauver. Enfin, ça aurait été drôle, dans le sens, ça aurait été logique qu'il la laisse mourir. Au moment où elle sort, tu vois, de la maison, elle se rend compte que c'est trop tard, la voiture est déjà sous l'eau. Mais du coup, on a cette survivante miraculée et qui par miracle du coup accouche toute seule d'un enfant. D'ailleurs, vraiment, de la scène de l'accouchement, c'est drôle parce que c'est typiquement la situation dans laquelle t'aurais pas voulu te retrouver en tant que personne extérieure à qui on impose des choses.
Ah non, mais cette scène, t'es passé directement ça. Moi, je voulais parler d'une autre scène d'abord, mais c'est pas grave, on passe à ça direct. Oui, donc c'est à la, on va dire, la dernière partie du film où le jour se lève et elle est dans... Là, du coup, c'est Lisa, ouais, Lisa, la femme qui est enceinte et qui, pendant tout le film, essaye de pas accoucher. On sait pas trop. À un moment, elle pousse. Après, bah non, faut que le bébé, il sorte pas. C'est pas le moment. Oui, mais après, s'il veut sortir, il veut sortir. Hein, tu ouais, choisis pas.
Je pensais plutôt à la scène où elle lui demande de regarder entre ses cuisses et...
Ah, oui.
Et là, pour le coup, c'était drôle parce que c'était une réaction naturelle. Enfin, t'es une personne extérieure qui, visiblement, n'aime pas vraiment, enfin, a un problème social, quoi, de contact social. Et une femme te demande de regarder entre mes cuisses.
C'est ça. Ah oui, c'est vrai.
C'est un vrai moment de gêne et c'est réel. La réaction est réaliste, là.
Oui, mais bon, elle l'aide quand même. Mais la scène la plus hallucinante reste quand même à la fin, quand cette femme enceinte finalement accouche. Et elle accouche pas dans la maison, ni dans la voiture, elle accouche dans l'eau. Voilà. Dans l'eau, là où il y a le requin, en pleine rue, c'est le jour s'est déjà levé, c'est plus la nuit, parce que ça se passe... après, c'est parce qu'il y a la tempête aussi, du coup, il fait nuit. Et du coup, elle accouche dans l'eau. Elle coupe le cordon avec je sais plus quoi. Elle prend un truc. Ah non, c'est l'autre fille qui. La fille agoraphobe. Punaise, la pauvre. Alors, elle a vécu son pire cauchemar pendant une journée. C'est elle qui s'en occupe. Mais avant ça, la mère, elle vient d'accoucher. Elle a encore toutes ses forces pour continuer à nager, à garder l'enfant le plus possible au-dessus de l'eau et de repousser un requin. Elle repousse le requin quand même. C'est vraiment l'instinct maternel. Elle devient Wonder Woman.
Ah oui, non, mais les mères, hein, faut surtout pas toucher à leurs enfants. Mais bon, voilà, c'était peut-être l'image que voulait donner Tommy Vierkola, hein, je sais pas, mais du coup, ça laisse un côté vide à la fin. Et bon, après, on perd pas non plus beaucoup de temps de sa vie, puisque je crois que le film doit peut-être durer 1h20, même pas plus, quoi. Par contre, fait quand même assez cool, et c'est ça, c'est pour ça que je l'ai regardé jusqu'au bout, parce que je me suis dit, ouais, c'est pas mal. C'est que, bah. Ça arrive tout de suite, direct à l'introduction. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment trop d'intro. C'est tout de suite, on sait qu'il y a une tempête qui arrive. L'information, elle arrive directement, puisque de toute façon, on sait qu'une tempête arrive. Donc, pourquoi garder le suspense pendant 20 minutes jusqu'à ce que la tempête enfin arrive? Non, elle est quasi là. Et puis un enchaînement de conséquences, enfin un enchaînement de situations vraiment pas de bol quoi, parce que comme par hasard dans cette ville il y avait une boucherie et un mec devait livrer du sang ou devait se débarrasser de déchets d'animaux.
Oui, des déchets, il y a beaucoup de sang et puis tout ce qui est mou, les organes
Le
intérieurs,
sang.
quoi, les déchets, quoi. Et quand il y a une grosse vague qui arrive, ben, il veut protéger le véhicule, hein, de la femme
D'accord,
enceinte, de Lisa. Et du coup, il met le camion en travers. C'est un gros camion, un peu les mêmes qui transportent du fuel, des trucs comme ça, en fait, un gros tank. Et le truc, il se fissure comme ça. Mais genre vraiment une grosse fissure. D'un coup, il y a le sang qui sort. Et en quelques secondes, il y a une ligne de sang qui part du camion. Parce que c'est un genre de plan aérien et t'as la ligne de sang qui fait plusieurs kilomètres. Genre le sang, il a circulé en 5 secondes comme ça. Et il y a un requin qui arrive tout de suite. Et c'est là le gros problème. Et c'est le problème de tous les films de requins. C'est qu'un requin a un bon odorat, mais il faut pas exagérer non plus. Il va pas sentir du sang, même si c'est des litres, à des kilomètres. Surtout que c'est pas le sang humain ou animal terrestre, hein, de mammifère qui va l'intéresser. C'est le sang de phoque, de poisson, enfin des trucs comme ça. Tout ce qui est dans l'eau, il s'en fout de ce qu'il y a sur la terre. Il peut pas y aller. C'est logique. Et puis tellement de choses que les films continuent toujours à rendre les requins méchants alors que c'est pas du tout le cas. Un requin va pas chasser sans raison. Là dans le film, il y a quoi, deux trois requins, on a l'impression il n'y en a pas vraiment beaucoup et ils font que d'attaquer, attaque sur attaque, et vraiment gratuit. Et ils attendent, enfin comme dans Les Dents de la Mer, hein, le requin qui est autour du bateau, il veut tuer tous les gens et les gens de la plage. Comme si un requin allait tuer tous les gens d'une ville, quoi, qui attendent dans l'eau patiemment que les gens arrivent. C'est pas du tout ça. Un requin, il chasse, il mange et c'est fini. Il va rechasser quand il a faim.
Ouais, de toute façon, c'est un peu les principes de films de requins, bien sûr. Est-ce qu'on, ce qui est dommage, c'est que justement, tu veux faire un film de requin absurde en partant du principe qu'un requin est un tueur, mais ça va pas du tout jusqu'au bout. Et voilà, ce qui manquait aussi, on l'avait dit, hein, c'est ces scènes sous l'eau de ces scènes où il y aurait eu des flashs, voilà, où les gens se font projeter, quoi. Enfin, je sais pas, on voit la moitié du corps dans la gueule du requin. Je sais pas, même la scène de dynamite, qui est sûrement un petit hommage à Jaws, quoi, les dents de la mer. Il y a une explosion comme ça, un peu hors champ, et puis ouais, un peu de projection voilà, de déchets et de déchets organiques, et puis c'est tout. Voilà, vous le sentez un petit peu dans la voix notre débit, parce que d'habitude on a plus d'entrain à réussir à défendre un film bah parce qu'on l'a honnêtement bien aimé, mais là il n'y a rien qui passe quoi. Voilà, c'est tout. Beaucoup de CGI, parfaitement visible d'ailleurs. Quelques effets pratiques, hein, il me semble que y avait un peu d'animatronics.
Oui, il y avait un petit peu. Il y a de l'animatronics aussi. Ils l'ont expliqué quand tu regardes un peu les interviews du réalisateur, il en parle, mais oui. C'est dommage, il n'y a pas le budget indiqué. J'aurais bien aimé savoir le budget du film, mais après, c'est peut-être parce que c'est un film qui est sorti sur Netflix, ils ne le mettent pas forcément, ou ils ne l'ont pas encore mis sur Wikipédia. Mais il n'avait pas l'air d'avoir un gros, gros budget non plus. On a vu des films de requins qui étaient pas avec gros budget non plus, mais qui étaient quand même un peu mieux, quoi. Là, celui-là, c'est sûr que tu l'oublies, en fait. Tu retiens juste la femme qui a accouché dans l'eau, là, c'est sûr, ça on va retenir, hein. On va pas oublier, je pense, de cette scène parce que c'était tellement hors norme en fait. Mais oui, c'est tout. Il est oubliable. Mais par contre, la filmographie de Tommy Virkola, elle est vraiment pas inoubliable, je trouve. C'est pour ça qu'on était vraiment déçus parce que il fait pas toujours des films excellents, mais quand on regarde sa filmographie, il a quand même fait des choses intéressantes, comme tu disais, Yann, au début de l'épisode. Il a fait quand même Dead Snow, et il y a eu aussi la suite, Dead Snow 2. Et Dead Snow fait clairement partie de ces films cultes des années 2000, quoi. C'est un film qu'on cite, qui est régulièrement cité, même si on l'a pas vu, on connaît le titre, on connaît l'affiche, quoi. Il est connu, ce film, quand même. Et après, il avait fait d'autres films aussi qui étaient cool. Je sais pas si tu te souviens de Seven Sisters. On était le voir au cinéma il y a pas mal d'années, hein, ça date quand même.
Bah ouais, c'était un film SF dont je me souviens que quelques images malheureusement, et que j'aimerais bien du coup revoir parce que du coup, bah, comme on a visité Bucarest entre temps et que le film a été tourné à Bucarest, bah, j'aurais bien aimé revoir du coup la ville, comment ils l'ont transformée, comment ils utilisaient l'espace, enfin qu'est-ce qui voilà. Et puis c'est un bon, il y a très peu de films de science-fiction où il y a une critique sociale derrière, et donc c'est toujours cool d'en voir, et voilà, j'aimerais bien en revoir puisque j'aime bien de toute façon en plus Naomi Rapace et William Dafoe. Ben voilà, c'est un bon combo, je trouve. Et puis sinon, c'est tout. C'est le seul film vraiment qui a marqué de lui. À part, mais non, je suis bête. À part, bien sûr, le récent Violent Night, hein, avec l'excellent David Harbour. C'était la bonne surprise. C'était quand ? Noël dernier, non ?
Oui, je crois qu'on l'avait regardé Noël dernier, mais il était sorti l'année avant, je crois. Je sais plus s'il est 2021. Ah, je sais plus. Mais je sais que la suite arrive au mois de décembre de cette année. Et c'est vrai que le film était ouvert à la fin, et on s'était demandé est-ce qu'ils vont faire une suite, et c'est cool du coup. Il y avait vraiment un bon humour, mais je pense qu'on en fera un épisode, parce que j'ai envie de le revoir avant... Avant de voir la suite, il fait partie de ces bons films d'horreur de Noël, parce qu'il y en a vraiment un paquet aussi. C'est vrai que c'est ce qu'on va faire à partir de fin novembre, peut-être en octobre, on va faire des films thématisés automne, Halloween pour le podcast, et après on fera des films thématisés sur Noël.
Oui, c'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas vraiment trop le temps, parce qu'on était encore en voyage à Noël. D'ailleurs, je ne sais même plus si on a fait d'épisode d'ailleurs à Noël dernier. Je crois même pas, en fait. Mais là, cette année, il y aura des épisodes qui vont suivre. Et puis oui, parce qu'on rentre là à partir de cet été. On rentre cet été. Et donc, vous aurez un meilleur son. Et même, on va essayer quand même d'innover un peu plus ce podcast, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. On est 45 abonnés quand même, merci les 45 fidèles, à vous. Pour les autres qui écoutaient régulièrement, n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à noter ce podcast. Donc effectivement, attendez-vous qu'à partir de cet été, voilà, on reprend du flambeau, on est réinstallé, on a notre ordinateur de bureau, ça va tout changer.
C'est ça, et il y aura évidemment bien plus souvent des épisodes aussi, ce sera bien plus facile. Et pour revenir du coup à la filmographie de Tommy Virkola, tu as encore oublié Hansel et Gretel.
Ah, ça, c'est ta spécialité. Ça, c'est ton film. Je l'ai vu une fois et je l'ai zappé.
Le fameux Hansel et Gretel Witch Hunters avec Jeremy Renner et Gemma Arterton. Et pareil, il commence aussi déjà à dater. Je crois que c'était 2010, 2011, 12, je ne sais plus. Tout début des années 2010, je dirais.
Mais ça fait partie des films de revisite de contes. On n'était pas à peu près la même année que le chasseur de Blanche-Neige et le chasseur, ou je ne sais plus quoi. Et puis il y avait du genre chasseur de sorcières, Witch Hunter, là, avec Vin Diesel. C'est un peu les mêmes époques et le même style.
Franchement, je sais pas. Mais c'est plus ou moins, ouais, on va dire dans les 5 mêmes années, parce que je sais pas si c'est la même année non plus. Mais le Blanche-Neige et la sorcière, parce qu'il y en avait deux, tu veux dire celui avec. Parce qu'il y avait un Blanche-Neige avec Kristen Stewart. Il y avait eu aussi après un autre Blanche-Neige encore. Et qu'est-ce qu'il y avait oui, le Witch Hunter avec Vin Diesel, je me souviens. Et après, il y a un autre encore, aussi avec un chasseur de sorcières avec Nicolas Cage, mais je sais plus le titre. Oui. Oui, j'étais retombée dessus parce que j'avais regardé qu'est-ce qui était récemment tourné à Budapest et la page Wikipédia en anglais de Budapest a été bien mise à jour et du coup, il en fait partie. En tout cas, ils avaient tourné au studio Origo, le gros studio de Budapest, hein, si vous ne le savez pas, le studio où a été tourné Dune 1 et 2 et où le troisième est en cours, je crois, cette année, ils vont le
Moi,
tourner.
j'aimerais bien le voir du coup, et j'aimerais bien enfin qu'on voie en entier. Est-ce qu'il y a un truc où... c'est notre malédiction à nous, on n'arrive jamais à regarder Witch Hunter, donc avec Vin Diesel, en entier. À chaque fois, on est. Bizarrement, ça passe à la télé, on est dans un hôtel ou quoi, on allume la télé et il y a ce programme-là, on se dit cette fois-ci, on va le regarder, et on s'endort au bout d'un moment, quoi. Bon,
Mais
oui.
toujours mauvais moment, Vin Diesel. Et du coup, ce film, Hansel et Gretel, moi je me souviens, avec la bande-annonce, il me donnait déjà envie. Déjà, moi, c'est un de mes contes préférés, j'aime beaucoup ce conte. Et je trouvais ça drôle, l'idée de se dire, mais que sont devenus Hansel et Gretel? Ils sont adultes, mais des chasseurs de sorcières, quoi d'autre, franchement. C'est ce que Tommy Vierkola a choisi de faire. Et c'est vrai que le film, il n'est pas parfait, mais il est cool, il est rigolo. Moi, je passe un bon moment devant, comme devant les frères Grimm d'ailleurs. Brothers Grimm avec Heath Ledger et Matt Damon, que j'aime beaucoup aussi.
Avec d'excellents lieux de tournage en Tchéquie. D'ailleurs, ça va être l'occasion, le petit retour en Tchéquie là, d'aller se les faire enfin, parce que c'est tourné quand même dans quelques beaux châteaux. Et je me souviens que pour Hansel et Gretel, je crois, c'était en 2023. On cherchait déjà des lieux de tournage, on voulait développer la chaîne YouTube Les Voyageurs Cinéphiles, où on fait des vidéos lieux de tournage, et on s'est dit, eh ben, vu qu'on rentre en Europe, c'est l'occasion de trouver des lieux de tournage cool. Et on était tombé sur un article d'un mec qui avait parlé comme quoi il y aurait encore le village de Hansel et Gretel, mais on ne sait, il n'y a pas de données géographiques, on sait où il est.
Non, il y a rien parce qu'ils ont vraiment tourné en Allemagne pour le coup, hein, le pays des contes, hein, le pays des frères Grimm. D'ailleurs, si vous allez un jour en Allemagne et que vous aimez les contes, il y a la route des contes. Ça a l'air vraiment cool. On l'a pas encore fait nous. Vous tapez route des contes, hein, sur internet et vous trouverez toutes les infos. Il y a un site internet dédié avec un parcours à faire en fait en fonction des contes des frères Grimm. Et je trouve ça vraiment cool parce que chaque ville a un élément, il peut y avoir une statue, enfin il y a à chaque fois quelque chose, il y a des forêts qui rappellent les contes parce que c'est les forêts qui ont inspiré les frères Grimm pour leurs histoires. Et pour revenir du coup au film, oui, ils ont filmé dans les forêts en Allemagne, ils ont filmé aussi dans une ville, la ville de Brunswick. J'avais vu quelqu'un y avait été, il avait fait une photo. On voit la place de la vieille ville, c'est une petite ville. Ça, c'est cool, j'aimerais bien y aller. C'est en Basse-Saxe. Et l'autre truc, c'est là, oui, comme tu disais, le fameux village. On ne sait pas où il est, mais je pense qu'ils l'ont construit en fait. Hein, tout simplement parce qu'ils ont tourné au fameux studio, le studio historique de Berlin, le fameux studio de Babelsberg, qu'on va
Quand
enfin
même,
aller
sinon
voir.
c'est une éternité.
Oui. Mais là, on va vraiment y aller. Le Babelsberg et il y a le studio Bavaria Munich aussi qu'on veut aller depuis longtemps.
Je veux voir la maquette originale du dragon de l'histoire sans fin, c'est là-bas,
Ah oui,
hein.
c'est là-bas, oui. Ça, c'est Bavaria, c'est bien ça, oui. Et pour la forêt, ben, c'est les forêts de Basse-Saxe, hein, les forêts qu'on voit aussi souvent dans les contes, les adaptations de contes par les sociétés de production allemandes. Et même le réalisateur, il était content de pouvoir tourner en Allemagne, hein, dans le pays des contes. Enfin, comme je disais, le film, il n'est pas parfait, mais si vous l'avez pas vu et que vous aimez les films de contes, vous aimez les frères Grimm, des trucs du genre comme ça, vous allez passer un bon moment. D'ailleurs, si on compare à L'Épouvanteur, Il y a un monde entre les deux.
Le septième fils, hein, le titre de l'adaptation, c'est le septième fils.
Ouais. Oui, voilà, le septième fils, l'adaptation de l'épouvanteur, il y a un monde entre les deux. Hein. C'était horrible. Je crois que c'est la pire adaptation de livre que j'ai vue tous les temps. Ça m'a même fait arrêter les livres parce que j'étais au tome 4 ou 5 et j'ai arrêté à cause de ce film. Ça a détruit mon imagination que j'avais du livre, en fait. J'avais plus envie de lire la suite, en fait.
Eh ben ouais, c'est dommage. Ben du coup, on a fait le tour, je crois, de Tommy Vierkola. Est-ce que il a fait quelque chose d'autre? Je ne crois pas. Non, on a tout parlé. Hein. Voilà. Je pense que c'est plutôt bon. Non, pour revenir un petit peu au film, ouais, parce qu'on a appris quand même un truc de fou, et je suis sûr que certains d'entre vous ont l'anecdote. Nous, on l'a eu juste là, et peut-être que certains d'entre vous n'ont pas cette anecdote. C'est que Shyamalan, alors comment on arrive là-dessus, bah parce que l'une des actrices, la femme enceinte hein, qui est dans Trash, c'est Phoebe Dynevor. Donc pour les fans de Bridgerton, c'est Daphne Bridgerton. Et du coup, elle joue dans un film de Shyamalan qu'on attend avec impatience, avec Jake Gyllenhaal d'ailleurs, parce qu'on est fan de Shyamalan, on le répète, et en 2027 sort Remains, donc c'est le film qui a été conçu, enfin en tout cas l'histoire, par Shyamalan évidemment, mais par un romancier inattendu, et j'allais dire Stephen King, bah non, c'est pas Stephen King, c'est Nicholas Sparks. Le mec qui écrit des romances. Hein, que t'aimes bien, le Nicholas Sparks?
Comment tu parles comme s'il avait 10 ans? Nicolas.
Tu l'aimes bien, Nicolas?
Bah, Nicholas Sparks, l'auteur qui fait pleurer tout le monde, même un homme avec un cœur de pierre, je dirais.
Oui, c'est quand même lui qui a attendri, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant.
Skills
des frères Scott. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que là, The Notebook... on en a parlé dans un précédent podcast, c'était pas l'épisode dernier, on revient toujours à The Notebook.
Ah, c'était à cause de Sam Raimi, à cause de l'actrice principale, j'ai oublié son nom, qui joue dans The Notebook.
Ah ouais, voilà, j'ai l'impression que tout
c'est
le...
McAdams.
Ah, c'est vrai. Du coup, tout le monde cinématographique est relié à The Notebook. Enfin bref, oui, vous l'avez bien entendu, Shyamalan va bosser, a déjà bossé avec Nicholas Sparks, mais ils ont déjà failli bosser une première fois ensemble. Et là, c'est quand même assez ouf.
Oui, c'était fou de voir ça. Je ne savais pas du tout. Ils avaient failli bosser ensemble pour il y a plusieurs décennies même. Et c'était, en fait, c'était Shyamalan qui devait adapter le scénario de The Notebook. mais ça ne s'est pas fait parce que Shyamalan, eh ben, il travaillait sur Le Sixième Sens. Et on est content qu'il n'a pas abandonné ce projet. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que l'histoire, ils l'ont créée tous les deux. Donc la patte de Shyamalan plus la patte de Nicholas Sparks. Je pense que ça va être mystérieux, ça va être dramatique, on va chialer, ça va être du lourd. Et du coup, pour définir le genre du film, parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi ça parle encore, c'est un thriller romantique surnaturel.
Ah.
Ouais.
Oh. C'est rare. Hein.
C'est rare, oui. Et tellement rare que ça m'a fait penser à un film que j'avais presque oublié. Un film de Alexandre Aja. Non, c'est pas...
Ça doit pas être son film de crocodile, à mon avis. Hein.
Non, c'est pas les crocodiles, non, même si avec l'ouragan...
Mais oui, mais je sais pourquoi, en fait, on n'a pas aimé le film de requin. Mais parce qu'il y a Aja qui est déjà passé derrière avec son crocodile, et son film était bien meilleur, alors qu'on est sur la même thématique d'un ouragan et d'un animal, du coup, qui est emporté par le courant, quoi.
Et puis surtout, on n'a qu'un seul personnage, quasi, tout le temps, pendant tout le film. On est avec la fille tout le temps, c'est ça?
Et donc du coup, tu voulais dire quoi? Quel film?
Horns, avec Daniel Radcliffe.
Ah bah oui.
Et Juno Temple.
Je sais que j'ai presque oublié ce film en fait. Pourtant, c'est scandaleux hein, parce que c'est Joe Hill qui l'a écrit et j'ai même pas lu le bouquin.
Oui, c'est scandaleux. Hein. Moi aussi, je l'ai pas lu le livre, donc je vais le lire et revoir ce film parce que je me souviens que j'avais beaucoup aimé et c'était chouette de voir Daniel Radcliffe dans un rôle complètement différent. Parce que c'est vrai, depuis Harry Potter, il a vraiment fait des trucs, mais à l'opposé. Et ça me fait penser à un autre film, ça n'a aucun rapport, mais ça me passe par la tête. C'était quand il a fait la biographie sur le Yankovic, là.
Ah oui, ouais, ce.
C'était hilarant, il est trop
Et c'est
drôle.
ouf parce que du coup, je pensais que c'était un faux biopic, mais non, le mec existe vraiment.
Le Weird Yankovic,
All
je sais plus.
Yankovic, enfin, ouais, je ne connaissais pas du tout ce musicien parodique, mais ouais, c'est. Et puis, il a joué aussi dans un film où il jouait un auteur, je crois, il faisait partie d'un cercle de poètes. Je sais pas si c'était Lord Byron ou un délire comme ça, mais oui, il a joué les poètes du 18e siècle dans un film. Il me semble, hein. Parce que tu me regardes bizarrement, mais je suis quasi sûr que j'ai vu ce film.
Non, si, c'est juste, je me souviens, je l'ai aussi vu, ce film. Donc oui, Horns, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille ce film. Et j'ai très hâte de découvrir ce film de Shyamalan. Et puis, si vous voulez lire le livre avant, d'après ce que j'ai vu, Nicholas Sparks a terminé de l'écrire en janvier de cette année. Donc le livre, ben, il y a forte chance qu'il sorte avant février de l'année prochaine. Donc on va pouvoir connaître l'histoire avant. Et je trouve ça vraiment cool. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Dès que le livre sort, je vais le lire pour connaître l'histoire avant.
Bah, on sait maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi ajouter du coup sur la liste du fameux Pumpkin Autumn Challenge qu'on essaye de faire chaque année. Et on échoue au bout de trois lectures. Bon, allez, c'était exceptionnel l'année dernière. Là, cette fois-ci, on y va. Hein. On lit des bouquins. C'est important. Puis les films aussi d'ailleurs.
Et les jeux vidéo aussi.
Ouais. Bon, ben voilà. Bah, écoutez, l'épisode touche quasi à sa fin. Hier, on a été au cinéma. Oui, on était voir Michael. Rien à voir, pas un film d'horreur. Sauf pour ceux qui ont joué au jeu, enfin, qui connaissent un peu la creepypasta avec Michael. Les sons. Ah, j'arrive plus à le faire. Bref, où t'entends ce cri et puis qu'un Michael absolument dégueulasse te poursuit dans un jeu d'horreur. Et c'était. Pour le coup, j'ai trouvé la performance excellente. Mais après réflexion, c'est vrai que c'est quand même très en surface, même s'il fallait bien qu'on se concentre sur un détail de l'histoire, enfin un détail sur la relation entre Michael et son père, bien qu'ils ont eu quand même, ils ont évincé quand même beaucoup de détails.
Oui, ils ont évincé surtout tout ce qui a fait scandale, hein, ça se termine juste avant, mais j'avais lu dans un article que le film ne devait pas commencer comme il commence. Je ne vais pas vous dire comment il commence, hein, au cas où vous voulez le voir, mais à la base, ils avaient prévu de le faire commencer par Michael, le Michael qui se fait arrêter en 2005 ou dans les années 90. Non, je crois que c'était. Non, c'est 2005 ou
Ouais, c'est
94.
ouais,
La première
c'est les
fois.
années 90, hein,
Ouais,
c'est ça?
donc la première fois en 94, je crois que c'était au 93, et qui se fait arrêter eh ben, à son domicile à Neverland. C'était ça, normalement, le début du film, apparemment. Et ça a été enlevé parce que la personne qui l'avait accusé à l'époque, j'ai oublié son nom, je crois que c'était Jordan et son nom de famille, je sais plus. Il voulait pas apparaître dans le film. Après, il y a aussi des histoires d'argent. Tout ça reste vraiment toujours très très flou et très étrange. J'ai l'impression que c'est un des plus gros mystères. Ben, Michael Jackson restera toujours un des plus gros mystères parmi les célébrités en fait. On n'aura jamais de réponse. On saura jamais qu'est-ce qui s'est exactement passé en fait. Ça restera un mystère.
J'ai lancé le truc sur Michael Jackson, je sais même pas pourquoi,
Ouais.
mais voilà, c'est juste pour dire qu'on l'a vu, on est à jour, et demain nous allons voir la momie
De lit.
de Lee Cronin. Ouais. Et du coup, ben, on vous aurez bien sûr une critique pour l'avenir, hein, pour les prochains épisodes. Et bien sûr, en parlant de films de requins, on n'a pas oublié Rennie Harlin, parce que Rennie Harlin a fait un excellent film de requins. Hein. Peur bleue, on le rappelle quand même, Deep Water,
Cette année,
cette
sort.
année il sort, hein, c'est vrai que bah merci d'être mon mémo, vas-y je te laisse le micro pour la fin.
Mais oui, parce que tu as complètement oublié, tu avais montré la bande-annonce en plus. On en avait déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, on en parlait. Rennie Harlin, son nouveau film sort cette année sur les requins de nouveau, et c'est Deepwater. En gros, il y a un crash d'avion, les gens sont dans la flotte et les requins arrivent. Et je trouvais ça vraiment cool comme idée, et comme j'avais beaucoup aimé Peur Bleue, c'est un des films de requins que j'aime le plus, je crois, en fait. Hein. Ça fait un moment que je ne l'ai plus vu, mais je sais que je l'ai vu quelques fois quand il passait à la télé. Il passait souvent sur RTL9, d'après mes souvenirs. C'était genre le film qui passait tard. Tu zappais et oh bah tiens, il y a Peur Bleue, bah, je regarde. Et pour finir avec Rémy Harlin, on n'a pas oublié, on vous a promis un épisode spécial pour sa trilogie The Strangers qu'il a tourné en quelques mois seulement à Bratislava en Slovaquie. On n'a pas encore eu le temps de voir le chapitre 3, mais dès qu'on aura vu le chapitre 3, on fera ce gros épisode. Bah, j'arrive plus à parler. On fera ce gros épisode hein, sur le chapitre 1, 2, 3. On s'est dit, on va pas le couper, ce serait dommage parce que le tout est quand même très relié. C'est vraiment la suite directe. En tout cas, c'était le cas du chapitre 1 à 2. Et je pense pour quand on passe au 3, pareil, ça va être une suite directe.
Oui, d'ailleurs, ce serait intéressant de se refaire précédent et faire une grosse soirée Rémy Harlin. Mais ça, je pense qu'à mon avis, ce sera plutôt qu'on sera installé avec une grosse télé. Ouais, une grosse télé pour voir des bons films, ça va faire plaisir. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, et c'est super important, on a besoin de vous pour être visible et d'atteindre au moins un jour les 100 auditeurs réguliers, et bien pour cela il suffit juste de noter, de mettre un 5 stars comme disent les Asiatiques, ici 5 étoiles et une good review, voilà, sur Spotify, je crois. Il y a d'autres plateformes où vous pouvez mettre des reviews, je ne sais pas, si au cas où toutefois vous avez mis des commentaires ailleurs que sur Spotify et qu'on n'a jamais répondu, c'est qu'on les a jamais vus parce qu'en fait... Il se passe que on se connaît que sur Spotify, Creator, voilà. Donc désolé pour ça, on va essayer de se connecter sur les autres plateformes, c'est même plus comment on fait. Bref, on est vraiment des boomers. Allez, on va vous laisser là-dessus, et puis à bientôt hein, pour de nouveaux
films d'horreur.